Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio CSA La France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans CSA La France, l'émission du savoir-faire français. Tous les dimanches, on donne la parole aux entrepreneurs qui se battent pour maintenir leur production en France. Et comme vous le savez, avec la crise sanitaire, les commerces dits non essentiels sont fermés, les salons, les foires annulés. Donc les initiatives se multiplient pour inciter les Français et les Françaises à acheter français, à avoir un achat citoyen pour ces vacances de Noël au moins. Et Amandine Hesse, justement présidente de la FIMIF, la Fédération indépendante du Made in France, a publié une lettre ouverte à tous les Français pour justement les inciter à acheter français. Et pour elle, c'est la survie des entreprises françaises et de nos emplois qui est en jeu. Ils sont nombreux à avoir signé cette lettre, parmi eux le slip français, la Camif, les bijoux, les Georgettes, leader en Europe, l'atelier Tufri de jeans, la carte française, ou encore la directrice et la fondatrice du salon du Made in France, Fabienne Delahaye. Et nous avons avec nous notre premier invité, Brice Lambert, qui lui aussi a co-signé cette lettre. Brice Lambert, fondateur de la marque Jean Français Chevron.
Sud Radio CSA La France, Nathalie Schrengerma.
Et si nous passions ensemble un Noël 100% Made in France. Bonjour Brice.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors Brice, vous avez donc fondé cette marque de jean français Chevron. Comme je le disais, vous êtes co-signateur de cette lettre, on va y revenir. Mais déjà, parlons un peu de vous pour vous faire connaître à nos auditeurs. Vous êtes dans le jean vert.
Exactement.
Il faut le rappeler, c'est l'une des industries les plus polluantes au monde.
La seconde, oui.
Mais de toute façon, le textile, déjà, effectivement, c'est un secteur qui est quand même, j'imagine, entre la fabrication, les lavages, donc c'est polluant comme domaine.
Exactement. L'industrie textile est la seconde industrie la plus polluante au monde derrière l'industrie de l'hydrocarbure.
Et vous proposez des pantalons, des blousons éthiques 100% Made in France et vous êtes dans l'Aveyron.
Exactement, dans le sud-ouest, effectivement. J'ai monté ce projet maintenant depuis 2 ans qui commence à s'être concrétisé et de pouvoir proposer en ligne sur le site chevron.fr la première collection avec un jean pour homme et pour femme et un blouson pour homme et pour femme également.
C'est l'occasion de rappeler l'histoire du jean. Ça vient du denim.
Tout à fait.
Inventé à Nîmes.
Exactement,
en France.
Exactement. C'est un produit au départ qui est bien français, bien de chez nous. Et c'était aussi une des raisons de ma motivation, puisque je trouvais que c'était un beau clin d'œil, un beau point de départ, surtout venant du sud-ouest, d'avoir un produit qui était finalement local.
C'est vrai que ce jean, à l'origine, c'est une toile qui a d'abord servi à fabriquer des tentes. Ça a été utilisé en surpantalon à l'époque des chercheurs d'or dans l'ouest, vous le disiez
exactement.
À l'instant, américain. Et c'est cet Allemand, hein, cet homme d'affaires Lévi-Strauss, qui va en faire un produit ultra populaire. Et on en oublie effectivement qu'à l'origine, c'est un produit qui a été inventé en France.
Exactement. Et finalement, c'est peut-être le premier vêtement recyclé
oui,
qui existait. Hein, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, c'était à l'origine des tentes.
Alors, on parle beaucoup en ce moment, on le voit aux informations, hein, c'est incroyable de voir tous ces changements de vie. Eh bien, vous avez eu plusieurs vies professionnelles. Vous avez d'abord été dans la chimie,
oui.
Dans la téléphonie. Et désormais dans la confection textile.
Exactement.
Qu'est-ce qui vous a plu justement ? Pourquoi avoir choisi aussi le jean ?
Alors il y avait bien sûr l'envie d'entreprendre et puis de donner un peu sens, de faire écho à mes valeurs et à ma propre consommation qui a évolué vers quelque chose de beaucoup plus local. On le fait dans l'assiette, on le fait de plus en plus sur ce que l'on porte. Et je pense que c'est aujourd'hui important de soutenir nos savoir-faire, d'en être fier et de les faire briller par nos initiatives à tous. Et le jean, encore une fois, par sa localisation du sud-ouest, voilà, c'était un bon maillage et un bon point de départ pour le projet.
C'est vrai qu'il y a il y a vraiment une famille de ce Made in France et de nombreux entrepreneurs à vouloir donner envie aux Français d'acheter local et pas que pour la consommation, enfin les produits alimentaires, mais également pour les vêtements. Il faut le rappeler qu'un quart du chiffre d'affaires des entreprises, voire plus même d'ailleurs, des commerces français sont réalisés chaque année en novembre et décembre. C'est votre cas ? En tant que
Alors l'activité est toute récente, mais effectivement, forcément, dans le textile, les périodes de fêtes de fin d'année avec les cadeaux sont forcément une période très très importante pour le commerce.
Amandine Hesse, que vous connaissez bien, donc qui est la présidente de la FIMIF, la Fédération indépendante du Made in France, comme je le disais, a publié une lettre ouverte lundi dernier co-signé par de nombreux entrepreneurs. C'est d'ailleurs le timing est bien choisi, hein, un mois et demi avant les fêtes de fin d'année, pour rappeler qu'il faut vraiment cette année, si on le peut, acheter français. Et je la cite, si demain toutes ces entreprises s'effondrent, hein, ce seront autant de produits qui ne seront plus fabriqués chez nous. Nous pourrons dire adieu à notre souhait d'indépendance industrielle, nos emplois, nos savoir-faire. Nous risquons la disparition du modèle social et culturel qui fait la force de notre nation. Vous avez co-signé cette lettre, vous êtes inquiet également ?
Oui, c'est comment dirais-je, les habitudes de consommation ont énormément évolué. Alors effectivement, on a aujourd'hui le réflexe de prendre son smartphone pour consommer.
D'acheter en ligne.
Ouais. Exactement, pour faire de l'achat en ligne. Souvent de privilégier par la facilité les très très gros acteurs mondiaux, je dirais. Et qu'effectivement, il faut penser aujourd'hui qu'il y a tout un tissu économique, social, de plus petits acteurs qui sont là, qui se battent quotidiennement pour pouvoir proposer des alternatives, pas forcément plus chères en plus, et simplement, ils ont besoin aujourd'hui qu'on les aide, qu'on les soutienne, d'autant plus dans cette période. C'est vraiment important. Il en va vraiment de notre tissu social et bien de se rendre compte que ces acteurs, même derrière un site internet, sont des gens qu'on connaît aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est des visages, c'est notre voisin de palier qui a son propre commerce, qu'on fait tourner et qui va venir consommer chez nous. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de remettre ça au cœur de notre consommation.
Vous parliez des plateformes, hein, des géants internationaux de la distribution, Amazon pour ne pas le citer, qui a triplé effectivement ses bénéfices. Que pensez-vous justement de cette initiative Un Noël sans Amazon?
Mais aujourd'hui, faut bien avoir conscience que ce type d'acteur jouit de ces périodes où effectivement, comme vous le dites, il triple son chiffre d'affaires, etc., avec des résultats qui sont colossaux, et que quand on voit nos petits commerces qui aujourd'hui sont fermés, nos restaurants qui sont fermés, etc., je pense qu'il est vraiment essentiel que on dépasse la parole aux actes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus conscience, effectivement, qu'il faut consommer moins mais mieux, qu'il faut consommer plus local. Mais simplement aujourd'hui, souvent dans nos habitudes de consommation, par réflexe, on ne le fait pas.
Ouais.
Et quelque part, on peut des fois un peu se dire, le voisin le fera pour moi. Non, aujourd'hui, on est tous acteurs et ce sont les actions individuelles qui nourrissent le collectif. Et on a vraiment besoin de passer ce deuxième palier.
Mais alors, quand on a une initiative comme un Noël sans Amazon, il y a aussi cette volonté finalement de boycotter, hein, Amazon, de faire en sorte d'acheter autre chose que chez Amazon. Quand on voit le mode de consommation des jeunes générations, est-ce que le vrai combat, ça ne serait pas justement de se mettre en adéquation avec ce nouveau mode de consommation, essayer de trouver des solutions pour proposer une alternative forte à Amazon, avec peut-être des produits justement dont on sait qu'ils ne finiront pas enfouis je ne sais où, on sait qu'ils seront faits de manière, on va dire, dans un périmètre restreint. Enfin, on essaie de privilégier ce locavore, l'empreinte carbone. Est-ce que l'idée, ce ne serait pas effectivement de trouver quelque chose qui puisse être une vraie alternative?
Il y a déjà des initiatives. Hein, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs locaux qui se sont mis déjà sur la vente en ligne, avec une réaction très très rapide face à la situation sanitaire. On a également le click and collect qui s'est développé de la part aussi de ces commerces. Donc voilà, il y a des initiatives et c'est en marchant sur le même chemin et dans la même direction qu'on arrivera à démocratiser tous ces process et à créer quelque chose, une vraie synergie et une vraie force, tous ensemble.
Merci beaucoup Brice Lambert. Je rappelle que vous êtes à la tête de Chevron,
cette
entreprise de jeans verts, c'est important de le préciser. Et vous avez raison, hein, consommer moins, mais consommons mieux.
Exactement.
Au moins pour ce Noël. Puis ensuite, il faudra continuer bien évidemment, mais ce Noël, il est très très important pour de nombreux commerçants. Merci.
Merci beaucoup.
Bon dimanche à vous. On se quitte un court instant et on se retrouve juste après avec un concept store éco-responsable qui offre justement une multitude de solutions et d'idées cadeaux pour accompagner les personnes qui souhaitent changer leur mode de consommation. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio CSA La France, midi 30, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans CSA La France, l'émission du savoir-faire français pour un Noël 100% made in France. Et nous sommes en ligne avec notre deuxième invité, Christopher Caffier de chez Pépin et Trognon. Bonjour Christopher.
Bonjour, comment ça va?
Très bien, et vous? Alors, c'est assez marrant ce concept que vous avez mis en place, Pépin et Trognon. Déjà, le nom de ce concept store veut tout dire, quoi. Faut tout consommer.
Ouais, c'est ça, en fait. Le nom vient d'une recette de gelée, en fait. On récupère le pépin et les trognons et on fait une bonne gelée avec. Alors, et on des tartines.
Ben, vous avez bien raison. Et donc, cette boutique, elle se veut donc éco-responsable, avec plein de solutions alternatives pour consommer mieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qu'on peut retrouver dans ce concept store, hein, Pépin et Trognon?
Eh bien, écoutez, en fait, on a plusieurs thématiques. On a une thématique hygiène beauté avec, par exemple, des shampoings solides ou des cotons démaquillants réutilisables. On va avoir un espace jeux jouets avec que des jouets made in France. On va avoir un espace cuisine rétro avec, par exemple, des vieux verres Duralex, mais aussi des sacs vrac ou des dessous de plats vintage. Et puis, on a notre épicerie fine anti-gaspi avec que des produits issus d'invendus, par exemple des bières à base de pain recyclées et des confitures avec des fruits récupérés. Voilà.
Comment vous les choisissez, vos produits?
Bah écoutez, au départ, on voulait faire une boutique éco-responsable et on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, on quitte à faire, autant faire du Made in France.
Bah oui,
donc,
bien
évidemment,
sûr.
Le Made in France est très important pour nous. On va aussi avoir une question prix parce qu'on souhaite être une boutique accessible. Donc, on exclut un peu tous les produits extrêmement chers ou trop chers à notre avis. Et puis donc, on garde vraiment des beaux produits avec des belles histoires. On favorise aussi les artisans, les petits un peu partout. Par exemple, on a une couturière qui vient de Suresnes, qui s'appelle Marie, et c'est la marque La Blouse de Manou. Ouais. Elle fabrique quasiment exclusivement pour nous, pour l'instant, parce qu'elle débute des produits. Et donc, on teste avec elle, et c'est ça la beauté de l'aventure.
Oui, c'est de mettre le pied à l'étrier, peut-être de petits entrepreneurs, artisans, et essayer de travailler ensemble. Vous faites partie du collectif des boutiques du Made in France. Hein. Vous êtes 15 boutiques multimarques indépendantes. Vous distribuez près de 300 marques de fabricants français. Là aussi, ce collectif, il est là pour justement essayer de réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y a c'est pour répondre à peut-être des combats ensemble, être présent. C'est ça à quoi ce collectif?
En fait, pendant le premier confinement, on s'est rendu compte que la voix du Made in France était portée beaucoup par les producteurs et pas assez par les boutiques, alors que nous, on est au contact des clients, au contact des Français qui viennent chez nous. Et donc, je pense qu'on avait une voix à porter sur la thématique du Made in France, et qu'on nous entende aussi, et qu'on incite tous à changer nos pratiques et à se tourner vers des produits plus locaux, plus durable, plus responsable.
Alors, que diriez-vous aux auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent pour les convaincre justement d'acheter français?
Moi, je dirais qu'il y a, il y a plusieurs angles. Déjà, il y a l'angle local, parce que on consomme à côté de chez nous, et ça, c'est important. Il y a l'angle environnemental, parce que c'est des produits qui vont être transportés moins longtemps, moins loin, donc moins polluants. Il y a un contexte aussi social, parce que c'est des gens qui payent des cotisations sociales, qui participent à l'effort global. Et puis, il y a un côté fiscal. On parle beaucoup d'Amazon en ce moment, qui ne paye pas beaucoup d'impôts. Nous, toutes nos entreprises, nous y compris, on paye des impôts et on participe aussi à l'effort national. Et ça parle à tout le monde. Et en fait, le Made in France, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème.
On en parlait justement avec Brice Lambert, qui est avec nous en studio, qui a fondé la marque de jeans français Chevron et qui a co-signé cette lettre de la FIMIF, la Fédération indépendante du Made in France, pour inciter les Français à acheter français. Quel est le profil des clients qui viennent dans votre boutique? Est-ce que c'est des personnes jeunes, plutôt âgées? C'est ces gens qui sont sensibles à ces concepts éco-responsables?
Alors, en fait, on va avoir plusieurs types de clients. On a des gens qui sont déjà convaincus, soit par le côté Made in France, soit par le côté zéro déchet, éco-responsable, et tout ce qui s'ensuit. Mais on a aussi beaucoup de primo-accédants, des gens qui rentrent dans la boutique en se demandant qu'est-ce que c'est. Et donc, on leur explique la démarche, on leur explique qu'on a voulu favoriser le Made in France. Et tout de suite, ça fait tilt. On n'a jamais personne qui vient nous dire non, je suis contre, etc. Et donc, ça intéresse les gens. On raconte des histoires, on raconte d'où ça vient, un peu partout en France. Et ça parle toujours aux gens. Moi, je suis plutôt breton, moi normand, je viens du sud, on a des produits de là, regardez, etc. Et ça parle, et c'est vraiment facile.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous lancer dans cette aventure? C'est la première fois que vous êtes à la... Enfin, que vous créez une boutique, hein, c'est ça?
Bah ouais, bien sûr. Mais en fait, moi, je viens du monde plutôt du zéro déchet et de l'anti-gaspi. Donc, j'étais très sensibilisé sur ces thématiques-là. Et mon associé Simon Amouyal, que je salue fortement d'ailleurs, lui était très branché Made in France. Et donc, on a décidé de réunir nos deux concepts ensemble pour faire une boutique. Et la beauté de l'aventure, ce que je disais au début de l'interview, c'est que au démarrage, on voulait faire une boutique éco-responsable avec beaucoup de Made in France. Et en cherchant nos produits, nos marques, on s'est dit, bah, en fait, on peut trouver des solutions à chaque fois en Made in France.
Il ouais. n'y a et pas donc, besoin d'aller dans du Made in Europe ou je ne sais quoi. Il y a vraiment le territoire français, il y a de quoi faire sur le territoire.
Oui, après, il y a des choix, des fois difficiles. On est obligé de dire non à certains des clients parce qu'il n'y a aujourd'hui pas ce type de produit en Made in France et on décide de ne pas le faire. Je pense notamment aux gourdes en inox, par exemple, qui ne sont pas encore Made in France. Il y en a une qui vient d'être créée par la marque Zest et j'espère qu'on l'aura bientôt.
Vous avez la marque Gobi aussi. Alors après, c'est du plastique, bien mais sûr. Peut-être que c'est recyclable, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est qui est entièrement fait en France. Mais c'est vrai qu'il faut, fouiller. Quoi. Ça demande quand même plus d'efforts pour aller repérer pour certains produits. Mais on finit par trouver, hein.
Ouais, puis c'est tout le plaisir du métier. Si on avait qu'un grand catalogue avec un grossiste, ce serait pas rigolo, comme beaucoup de boutiques le font d'ailleurs. Et nous, voilà, on va chercher des petits produits, soit directement pendant nos voyages dans la France, parce qu'on se balade, on est comme tout le monde, on fait du tourisme et on rencontre des petites marques comme ça. Aujourd'hui, il y a quand même Internet qui est un super outil.
Bien sûr.
Pour rechercher des marques. Et puis aussi, on a nos clients. Qui nous proposent des choses parce que les gens sont de plus en plus intéressés par la question. Et là, récemment, on a rentré les fameux miel bleu-blanc-ruche.
Bien connu.
Mais en fait, on ne voulait pas faire de miel au départ, mais nos clients nous demandaient tellement de miel qu'on s'est dit, allez, il faut qu'on en fasse un. Et donc, évidemment, on a choisi celui-là parce qu'il est garanti Made in France.
Oui, il est labellisé Made in France garanti. Pas de mélange de miel.
Mélange. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de miel Made in France qui sont mélange. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose, c'est que le Made in France, c'est pas suffisant. Nous, il y a plein de produits Made in France qu'on ne prend pas parce qu'on les juge, pas bons, soit pour la planète, soit pour la santé, qui correspondent pas à notre éthique. Par exemple, dans la boutique, on va pas retrouver de bougies parce qu'avec Simon, on considère que les bougies polluent l'air intérieur. Et donc, on préfère orienter nos clients vers d'autres choses plutôt que des bougies. Voilà.
Alors, Christopher, pour terminer, comment vous faites aujourd'hui? C'est-à-dire que votre boutique, elle est fermée actuellement?
On a la chance d'avoir un rayon alimentaire, d'avoir un rayon hygiène, d'avoir un rayon entretien de la maison et d'avoir de la quincaillerie. Donc, on
est
ouvert.
Ça vous permet de maintenir la boutique ouverte.
Oui, tout à fait. Et ensuite, on va avoir juste le rayon jouet qui est fermé et disponible uniquement sur commande, de réservation, via téléphone ou Internet.
Voilà, donc sinon, c'est sur Internet, effectivement, sur le site Internet, Pépin et Trognon, pour pouvoir justement faire ces achats éco-responsables.
Et vous allez retrouver tous nos produits sur les stories Instagram, que nous prépare tous les jours Simon, avec une minutie géniale. Et vous allez voir, c'est hallucinant tellement notre produit. J'en reviens pas, là je suis dans le stock. Ça regorge de produits, c'est hallucinant.
Merci beaucoup Christopher Caffier pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes à la tête des Pépins et Trognon, cette boutique, ce concept store éco-responsable. Merci
à vous.
Bon dimanche à vous et j'espère, j'allais dire bon Noël en tant que commerçant, c'est-à-dire j'espère vraiment que les Français seront nombreux à venir taper à votre porte pour faire des cadeaux pour Noël.
Oui. Joyeux Noël à tous.
Merci, bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors je crois que vous êtes intéressé à ces petits commerces justement qui n'ont pas le droit d'ouvrir en cette période de confinement.
Exactement, ils sont nombreux ces commerces de proximité qui doivent garder porte close. Parce que les produits qu'ils vendent sont considérés comme non essentiels, vous les connaissez, ce sont les fleuristes, les magasins de vêtements, de jouets, les bijouteries. Et dans cette liste, il y a aussi les librairies qui n'ont pas été autorisées à rester ouvertes.
Sauf si c'est du click and collect.
C'est du click and collect, malgré un appel des professionnels du livre. Et j'ai eu envie de donner la parole à un libraire dans une ville que je connais bien, Condon dans le Gers. Il s'appelle Pascal, il tient la librairie Le Chapitre. Il m'a expliqué comment il s'organise. Écoutez.
Bien, on s'adapte. Enfin, je me suis adapté comme tous les libraires très rapidement. J'ai mis en place un système que j'appelle clic et réplique.
J'ai lu ça et ça m'a amusé. Voilà, vous francisez le click and collect.
Alors, j'ai repris le bon mot d'un confrère qui avait trouvé l'expression au mois d'avril. Alors je ne sais pas qui est ce confrère, je le salue à distance, mais ça me paraissait effectivement plus drôle, effectivement, d'adapter le terme. Donc voilà, j'applique. Enfin, j'ai mis en place un système de vente à distance, effectivement, sachant que je fais une permanence tous les jours de 15h à 18h. Pour permettre aux gens de passer me voir et de retirer ce qu'ils ont réservé ou commandé.
Concrètement, ça se passe comment ? On vous joint par téléphone, par Internet ?
Alors, je n'ai pas de site. Moi, je suis une petite librairie, donc je n'ai pas de site Internet. Je suis trop petit pour en avoir un. Donc, effectivement, par téléphone, par Internet, par Messenger, par tous les moyens possibles et imaginables, y compris les gens qui me saluent dans la rue et qui me passent leurs commandes. J'ai un chien que je promène souvent. Donc voilà. Après, c'est une petite ville, donc les gens se connaissent. Effectivement, il y a 100 moyens d'entrer en contact avec le libraire.
On peut vous interpeller dans la rue. Pascal, voilà, je veux tel livre.
Il m'est arrivé.
Et on vient le chercher.
Il m'est arrivé, effectivement, d'avoir ce type de commande. Tu peux me mettre de côté ceci, je passe demain. Voilà. Après, ça fait partie du charme des petites villes où chacun se connaît. Moi, je suis installé là depuis 2 ans et demi, mais c'est vrai que étant commerçant et libraire, je connais beaucoup de monde désormais, en effet.
Ben, ça fait partie des avantages, hein, quand on vit dans des petites villes, on peut directement interpeller son libraire dans la rue. Et on aime bien ce terme, hein, Thibaut, clic et réplique.
Ben voilà, c'est le terme qu'il faudrait employer. Ouais. Il faut employer ce terme, clic et réplique.
C'est vrai, c'est un terme bien français. Est-ce que les habitants de Codon jouent le jeu ?
Bah oui, le clic and réplique commence à faire son chemin et surtout il permet à Pascal de limiter les dégâts en cette période de novembre-décembre parce que vous savez c'est une période cruciale sur les achats de Noël. C'est très très important pour les libraires.
Et comment ils s'organisent alors le fonctionnement de cette librairie indépendante ?
Bah, vous expliquez en fait voilà, il a une permanence, il reste ouvert, il prend les commandes. Mais au-delà de ça, moi j'ai discuté un peu avec lui, il m'a expliqué comment lui envisage son métier de libraire au sens un peu plus large. Et vous allez comprendre qu'il fait bien plus que vendre des livres. Mais juste avant, écoutez, il va retracer pour nous son parcours.
Je suis natif de Talence, près de Bordeaux. Bon, j'ai travaillé une vingtaine d'années en région parisienne, dans la Marne également, à Épernay. Donc voilà, après je suis libraire depuis 20 ans et je voulais me mettre à mon compte, me rapprocher de ma région natale. Et le fait est que les possibilités étaient plus grandes, effectivement, dans le Gers qu'en Gironde, par exemple. Il y a beaucoup de bonnes librairies dans le Gers. Il y a 7-8 librairies, dont 2 qui se sont créées il y a quelques mois. Donc il y a un vrai appétit des clients pour des petites structures, c'est-à-dire pas des structures anonymes où les vendeurs ont l'air toujours affairés à Dieu sait quoi, mais une structure où les gens vous accueillent, vous conseillent, ou aussi des structures où le libraire fait un choix au préalable. Là, effectivement, j'ai 4000 livres en stock, ce qui veut dire que par rapport à ce qui paraît, j'ai fait une sélection assez en amont. Il y a une édition qui est plutôt calibrée pour les grandes surfaces. C'est pas la peine de les retrouver en librairie. Donc là, effectivement, on fait en sorte d'avoir un équilibre entre les livres qui vont se vendre, les découvertes, ceux qu'on aime, ceux qu'on pourra vendre à tel ou tel client. Enfin, c'est passionnant de faire ça un livre par un livre par un livre.
Je me rends compte que le libraire indépendant en zone rurale a vraiment un rôle très particulier.
Bah, écoutez, je m'en rends compte, effectivement. Après, j'ai lu, par exemple, sur Twitter ou Facebook, ou Dieu sait où, ces jours derniers, quelques tribunes qui disaient « Oui, les librairies, on veut les ouvrir, mais c'est un réflexe de bourgeois parisien. » Non, en fait, non. Les gens sont attachés à leur libraire, mais ça peut être à leur coiffeur, ou à leur... Enfin, vous voyez, au service, au contact, au fait qu'on connaisse les gens, à quelque chose qui n'est pas anonyme. Et je pense que le premier confinement, et peut-être le deuxième plus encore, nous invite à être justement dans une logique plus de proximité, effectivement.
Ben voilà, un libraire passionné par son métier. Tenez bon, hein, Pascal, jusqu'à la réouverture, on pense bien à vous. Et on pense aussi à tous ces commerçants de proximité qui nous écoutent. On a une date pour la réouverture ?
Bon, c'est pas trop. En fait, on va attendre la semaine prochaine.
Les annonces officielles.
La parole présidentielle, voilà. Et on saura.
Merci beaucoup, Thibaut, d'aller comme ça constamment à la rencontre de ces entrepreneurs français sur le terrain, ces artisans. Vous leur donnez la parole et on continuera chaque semaine sur Sud Radio, bien évidemment. Merci, Brice Lambert, fondateur de la marque Jean Vert Chevron.
Merci beaucoup.
Une marque éco-responsable dans le jean. Ça mérite vraiment d'en parler. Bravo, bravo. Et passez tous surtout un bon dimanche sur Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même radio. Et d'ici là, vous pouvez réécouter l'émission podcast sur sudradio.fr. Bon dimanche.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.